Le titre de ma communication sera un petit peu moins affriolant que ce qui était marqué sur l'affiche, puisqu'il s'agit de la Normandie vers Paris, les menus denrées au XVIIIe siècle, à travers le contrôle des actes. Il faut entendre, en effet, par menus denrées, je ne parlerai pas que du beurre, hein, il faut entendre par menus denrées un ensemble de productions qui sont jugées menus, qu'il s'agisse par les faibles quantités qui sont achetées par les clients, ça peut être des articles d'épicerie, qu'il s'agisse de leur modeste taille, c'est le cas par exemple des animaux de basse-cour par rapport à des gros animaux, et puis ça peut être également en raison de la modicité de leur prix. Et la Normandie au XVIIIe siècle, eh bien, est une grande pourvoyeuse des Parisiens en menus denrées, à commencer par le beurre, les œufs et le fromage. Ça, c'est une carte que j'ai réalisée avec la complicité d'étudiants de l'époque, à partir d'une liste de 1740 des marchés qui approvisionnent la capitale, donc dans ces différentes denrées, hein, sur lesquelles on peut voir donc à l'est, dans la généralité de Rouen, la ville de Gournay, qui est vraiment très importante, j'y reviendrai, qui est vraiment le marché principal, voire quasiment le marché unique. La région du Cotentin et du Bessin, donc à cheval sur la Manche et le Calvados actuel, hein, autour du marché d'Isigny, et puis une constellation de marchés sur les généralités d'Alençon, d'Orléans et de Tours, qui sont des marchés un peu plus secondaires, mais qui ont également leur importance. Alors l'objectif de ma communication sera double. Le premier, il s'agit de présenter une source et ses possibilités. C'est une source, le contrôle des actes, qu'on connaît surtout pour le marché foncier, mais qui peut présenter un intérêt majeur pour l'étude de la commercialisation des productions agricoles. Et puis deuxièmement, c'est également de présenter un certain nombre de résultats en ce qui concerne le beurre frais, et ça ce sont des résultats, la plupart d'entre eux, que je tire de ma thèse, soutenue il y a maintenant 5 ans, et également concernant les œufs. Alors la source tout d'abord. La source, en fait, je vais parler de deux sources. Je vais à la fois parler des lettres de voiture et également du contrôle des actes. Les lettres de voiture, tout d'abord, elles sont encore utilisées de nos jours par les transporteurs routiers, c'est-à-dire qu'elles permettent de contrôler un chargement durant le trajet ou bien à la réception. Et dans un court article publié en 1956, Pierre de Saint-Jacob attire l'attention des historiens du vin sur l'intérêt de rechercher et d'étudier les lettres de voiture, ce qui a été notamment mis en pratique par Thomas Brennan dans les années 90, hein, ou plus récemment par Benoît Musset, dans deux ouvrages concernant la production de vin et puis sa commercialisation. Mais sous l'Ancien Régime, on n'établit pas simplement des lettres de voiture pour le transport de boissons alcoolisées, mais on en établit pour des denrées aussi diverses que le poisson, les fromages, le beurre frais ou encore les œufs. Et en ce qui concerne Paris, comme l'ont montré Paul Bondois et plus récemment Reynald Abad dans leurs travaux, ce recours aux lettres de voiture s'explique par une grande vigilance des autorités parisiennes qui veulent à la fois éviter des spéculations, on peut faire des stocks aux abords de Paris, attendre que les prix montent et à ce moment-là terminer le trajet des chargements, éviter également eh bien, les risques de sédition, d'émeute qui seraient liés à ces chertés, et puis c'est également le souci de garantir une bonne perception des droits aux entrées de la capitale. Alors, au XVIIIe siècle, ces lettres de voiture, en tout cas pour ce qui concerne les chargements de beurre en panier, je ne vais parler que du beurre frais, qui est conditionné, enfin qui est dans des mottes, et pas des mottes de chez le crémier, hein, ça peut être des mottes qui font 50 kilos, qui sont conditionnées donc dans des linges, dans des paniers avec de la paille, donc ça c'est le beurre frais, et puis donc des paniers d'œufs à destination de Paris. Ces paniers, lorsqu'ils sont tirés de localités éloignées de plus de 20 lieues de la capitale, et voilà pourquoi il y a un cercle qui est représenté, ce cercle des 20 lieues, eh bien, ces chargements doivent être accompagnés d'une lettre de voiture. Ça, il y a une obligation qui est attestée au moins dès la fin du XVIIe siècle. Hein, pour sa mise en pratique, ça va prendre du temps. Dans le premier tiers du XVIIIe siècle, surtout à partir des années 1720-1730, va s'imposer aussi le fait que ces lettres de voiture elle soit établie par le notaire du lieu de départ des chargements. Alors les marchands réclament que ce soit eux-mêmes qui remplissent la lettre de voiture. Évidemment, les autorités ne sont pas dupes hein, et préfèrent que ce soit un personnage réputé, en tout cas plus neutre, dans la transaction qui remplisse les lettres de voiture. Malheureusement, ces lettres de voiture sont extrêmement rares dans les fonds d'archives. Les destinataires doivent sans doute s'en débarrasser une fois le chargement vérifié, ils n'ont pas d'intérêt à les conserver. Et quant aux marchands expéditeurs, ils n'en conservent pas de traces dans leur comptabilité, ou peut-être une trace temporaire. Et puis, une fois que la transaction s'est bien établie, ils n'en conservent pas de traces beaucoup plus durables. Alors j'ai pu en trouver quelques-unes pour des fonds de marchands de beurre d'Isigny qui sont présents aux archives départementales du Calvados. Ce sont des marchands qui ont fait faillite et sans doute il s'agit de lettres litigieuses qui ont été réexpédiées par la clientèle. La première, j'en profite, ça c'est la représentation du Carodéal, le plan de Turgot de 1739, et puis une gravure que j'ai trouvée sur Gallica représentant des marchands, des regrattières sans doute, à proximité du pilori des Halles, et c'est aux abords de ce pilori que l'on décharge les chargements de beurre et également les chargements d'œufs au XVIIIe siècle. Et donc, ces lettres de voiture, j'en ai trouvé quelques-unes, très peu. Et ces lettres de voiture, je n'en ai trouvé qu'à destination de localités normandes, notamment Caen, et puis surtout à l'époque de la Révolution. Voilà une lettre de voiture qui date de l'an 2 pour Caen. Alors en rouge, j'ai entouré le nom, il y a la date évidemment au départ, il y a le nom du voiturier, puis il y a une description du chargement. Ensuite, sur la partie gauche, en bas du document, vous avez l'adresse du destinataire, et puis vous avez la signature du marchand Pierre, qui atteste de sa volonté d'expédier cette marchandise. Et puis en haut à gauche, ce que j'ai entouré en bleu, vous avez un billet de pesée qui a été collé à ce document et qui atteste là aussi, qui donne une garantie en tout cas sur le chargement. D'autres lettres de voiture, en voici une par exemple pour... en voici une encore pour Caen. Caen, donc en l'an, ça doit être en l'an 4, c'est bien ça. Donc la mise en page est différente, mais les informations sont assez comparables. En voici une pour Paris, mais elle est de l'an 10, avec là aussi des mentions concernant le chargement. Et puis ce qui est intéressant, vous voyez, mais on voyait ça aussi sur les autres lettres, vous avez des lettres qui sont tracées, un M et un T. Ce sont ces lettres qui figurent sur le panier par des étiquettes ou qui figurent sur les nappes qui enveloppent les mottes pour, là aussi, mieux suivre le chargement. Bref, en tout cas, avec ces quelques lettres de voiture, il n'y a pas de quoi reconstituer le commerce du beurre ou des œufs à destination de Paris. Les investigations chez les notaires auraient pu s'avérer intéressantes. Alors, si on prend la situation à Isigny, c'est pas très encourageant. On a là une liste pour l'année 1767 d'un certain nombre de lettres de voiture établies par le notaire. Mais le notaire, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent qu'il a pu collecter à partir de ses actes. Et ce n'est pas vraiment de reconstituer tout le commerce du beurre. En 1791, un successeur au notariat d'Isigny établit là aussi une liste. Alors on a l'expéditeur, on a le destinataire. Ça nous donne donc des informations sur les marchands qui... travaille dans le domaine du beurre, mais là aussi c'est assez limité. Plus intéressant, c'est le notariat de Gournay. À Gournay, on a pour ce qui concerne les lettres de voiture, un nombre de lettres de voiture établies par semaine, et on a des états hebdomadaires du beurre, mais également des œufs, qui sont dressés pour les chargements qui partent vers Paris, mais également pour les chargements qui partent aux environs de Paris. Donc là, les informations sont déjà beaucoup plus abondantes et beaucoup plus intéressantes, d'autant plus qu'il y a une continuité. On a ces informations entre 1769 et 1783. Mais je n'ai pas trouvé par ailleurs, en dehors de ce notariat de Gournay, de listes comparables. Et en fait, la planche de salut de l'historien, elle ne réside pas dans les lettres de voiture elles-mêmes, mais elle réside sur les traces qu'on peut avoir des lettres de voiture dans le contrôle des actes. En effet... Étant donné qu'il s'agit d'un acte notarié, il est soumis à un droit qui est perçu par le bureau du contrôle des actes. Et en face de la mention de ce droit perçu, on a un petit descriptif de la lettre de voiture. Alors là, c'est illisible, même à l'écran, ou difficilement lisible. Tout à l'heure, je vous projetterai une ligne, une case, pour que vous voyez d'un petit peu plus près ce que ça signifie que de décrire une lettre de voiture dans ce type d'archive. Et il se trouve que pour trois localités, alors je n'ai pas fini de chercher dans les registres des contrôles des actes, hein, mais il y a au moins trois localités pour lesquelles les sources sont suffisamment abondantes. Ces trois localités, eh bien, il s'agit d'Isigny, de Mortagne et de Gournay, et c'est une chance puisque on a là un regard sur les trois ensembles que je faisais voir tout à l'heure. Alors les informations sont inégales en précision. Tantôt on n'a qu'un nombre de lettres de voiture accompagné de la liste des expéditeurs ou des destinataires. C'est le cas par exemple pour cet extrait donc du bureau de Gournay pour février 1755. Alors en ayant du temps devant soi, ben, on peut faire une sorte de bottin de ouzou, des marchands de beurre qui fréquentent le marché de Gournay, voir quand est-ce qu'ils apparaissent pour la première fois, quand est-ce qu'ils disparaissent des listes, et voilà, on pourrait avoir des informations intéressantes. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, en tout cas, je ne m'y suis pas essayé. Plus intéressant, c'est lorsqu'on a des mentions de mottes de beurre, et puis, en plus, là, bah, on a un nombre d'œufs, des 4 paniers d'œufs de chacun 1100, hein, et les mentions du nombre de mottes de beurre, c'est déjà en soi intéressant, même si le poids d'une motte et le poids d'un panier sont assez variables. En moyenne, c'est aux alentours de 220 livres, mais il y a des écarts qui sont assez conséquents, hein, entre l'hiver et l'été. Une motte, bah, il peut y avoir des mottes de 15 livres ou de 20 livres, et puis des mottes de 100 livres. Donc là aussi, hein, on ne peut pas appliquer un coefficient multiplicateur uniforme pour convertir ces informations en une donnée précise. On peut donner des ordres d'idées. Bah, le mieux, c'est évidemment lorsque on a une valeur précise. Là, on a donc deux actes pour un panier de 330 livres. On n'a même pas le nombre de paniers là, mais on a une expédition de 330 livres de beurre pour Paris. L'autre, 197 livres de beurre pour Saint-Denis. Hein, et donc là, ce sont des informations qui sont vraiment beaucoup plus faciles à exploiter. Et en l'occurrence, ça permet de construire de belles séries. Alors la plus complète, et moi ça a été la première sur laquelle je me suis essayé, c'est un peu par hasard, hein, quand j'étais étudiant, ben, je crois que c'était, on appelait ça à l'époque la maîtrise, je me suis demandé ce qu'il y avait dans le contrôle des actes, donc j'ai commandé un registre du contrôle des actes, je l'ai ouvert, et puis je suis tombé sur des informations concernant le commerce du beurre, je ne m'y attendais absolument pas, et de fil en aiguille, eh bien, j'ai regardé, et je me suis aperçu que eh ben, les informations étaient très abondantes. Pour Isigny, on a 30 000 actes qui relève du commerce du beurre. Alors, ces 30 000 actes pour Isigny, et puis là, j'en ai profité pour mettre un plan de 1772 d'Isigny et puis de la zone marécageuse, hein, de la BDV. Eh bien, pour Isigny, on a d'abord une première série avec des quantités seulement exprimées en panier, et je vous ai dit à quel point bah, ça posait des problèmes de conversion, hein, pour 21 000 actes. Et puis dans un deuxième temps, entre 1775 et 1790, là on a 9000 actes avec un poids qui est exprimé en livres, parfois en livres et mottes de beurre, et avec très peu de lacunes documentaires, c'est en tout je crois quelques semaines, c'est notamment des pages qui manquent dans un registre, hein, mais c'est vraiment une série qui est très continue. Pour Gournay-en-Bray maintenant, avec une gravure des années 1850, hein, mais pour Gournay, eh bien, la série est surtout exploitable entre 1757 et 1778. Là, on a une expression des paniers, une expression pardon, des chargements en livres de beurre. Et c'est très abondant, puisque je ne m'y suis essayé, et avec la complicité d'Erwan Néel, un ancien étudiant du pôle qui m'a aidé, hein, on en a saisi 24 000. Lettres de voiture seulement pour 1757-1769. Il faudrait finir le travail, hein, jusqu'en 1778. Si jamais il y a un confinement, je peux vous donner les clichés, hein, ça pourra vous occuper. Et donc uniquement pour le beurre. À l'époque, je n'avais pas fait les relevés pour les œufs, mais ça ferait encore plus que ça, hein, pour cette période. Et ces informations, eh bien, elles sont prolongeables, tout d'abord par, au moins pour les quantités, par le registre du notaire, dont je vous ai fait voir un cliché tout à l'heure, pour la période 69-83, et pour, on voit bien que ça fait les mêmes formes, hein, des courbes, et donc il y a une vraie les deux sources se corroborent. Et puis pour 1786-1789, en allant à la mairie de Gournay, alors maintenant ça a été transféré aux archives départementales de la Seine-Maritime, mais j'ai eu la bonne surprise de tomber sur ces états des marchés du marché de Gournay hebdomadaire, où on a un relevé très précis de qui achète, à destination de qui, le domicile, et une distinction entre ce qui relève des marchandises à destination de Paris, pour le beurre et les œufs, avec toute une gamme de prix, et ce qui relève des environs de Paris, sur le dos de chacun de ces états hebdomadaires, et on a ça pour près de 3 ans. Et là aussi, hein, quand on voit, vous verrez tout à l'heure, la forme des courbes, eh bien, elle correspond tout à fait à ce qu'on trouve avec les deux autres archives, les deux autres sources. Et donc, c'est assez rassurant aussi sur le fait de pouvoir prolonger une première série par, à l'aide des deux autres sources. Enfin, pour Mortagne, eh bien, Mortagne, c'est beaucoup plus tardif. Et là, il serait intéressant d'essayer de trouver des explications à ça. Pour l'instant, je n'en ai pas. La série n'est continue qu'entre octobre 1778 et janvier 1791. Enfin, quand je dis la série pour des poids exprimés en livres. Parce que ça remonte à un peu avant, ça remonte à décembre 1756, où là, c'est exprimé en panier avec les problèmes. Non, même pas en panier, il n'y a pas d'indication de quantité, il y a juste des noms d'expéditeurs et de destinataires. Hein, et donc, là, c'est beaucoup plus difficile à exploiter. Mais pour ce court intervalle donc de 1778 à 1791, eh bien, ça fait un peu plus de 6200 actes, dont une partie a été saisie pendant le premier confinement. Alors, les informations sont abondantes, mais sont-elles fiables ? En ce qui concerne la fiabilité de la source, eh bien, c'est une source d'Ancien Régime, donc avec des imperfections, des imprécisions, puisqu'on n'a pas le même scripteur sur 65 ans d'expédition de Beurre-Disigny. Il y a des erreurs qui sont commises, manifestes. Hein. Il y a des difficultés de lecture, et la paléographie n'arrive pas à tout résoudre. Il y a des incertitudes aussi. Sur le poids des mottes et des paniers, j'en ai parlé, mais également pour savoir si toutes les quantités concernent uniquement le poids du beurre ou le poids du beurre plus la tare, c'est-à-dire le panier et puis les linges qui entourent les mottes de beurre, et j'avoue ne pas avoir réussi à trancher. Donc on a peut-être, en tout cas pour certaines valeurs, des valeurs maximales, hein, si la tare est incluse dans l'estimation. Deuxième problème de la fiabilité de la source, eh bien, ce sont les fraudes. Et quand on regarde la correspondance des marchands d'Isigny, et cette correspondance des marchands d'Isigny, elle est abondante, quand on lit des procès-verbaux des commissaires au Châtelet, à Paris, là aux archives nationales, eh bien on s'aperçoit évidemment qu'il y a de la fraude. Il y a des chargements qui sont interceptés sans lettre de voiture. Il y a des fausses déclarations qui concernent le poids des chargements. Alors pas pour escroquer le destinataire, parce que le destinataire, la première chose qu'il fait, c'est qu'il pèse. Et on a des lettres, des fois, de marchands de Paris qui écrivent aux marchands d'Isigny et puis qui disent « j'ai pesé, ça ne marche pas, par rapport à ce qu'on avait convenu, il n'y a pas le poids ». Mais c'est plutôt par rapport aux perceptions des droits, au contrôle aux entrées de Paris. Hein. Et puis, c'est aussi sur la nature des marchandises. J'ai en tête deux exemples de marchandises déclarées pour du beurre salé, qui est de moindre prix, et qui, en fait, une fois qu'on gratte un petit peu, on s'aperçoit que c'est du beurre frais. Et puis, il y a aussi des fausses déclarations de destinataires. Alors là, c'est plus gênant pour reconstituer le commerce, parce que les marchands parisiens ne peuvent pas cumuler. Ils ne peuvent pas commander du beurre en Normandie et en même temps acheter du beurre aux marchands forains qui se présentent sur le carreau de la halle. Eh bien, il y a des marchands qui le font, hein, en utilisant des prête-noms. Et donc, ça perturbe un petit peu la lecture de l'organisation du commerce. Il y a néanmoins quelques aspects rassurants. Tout d'abord, et vous le verrez tout à l'heure, quand on met en graphique les séries, notamment les séries hebdomadaires, on voit vraiment des régularités et sur plusieurs décennies. Deuxièmement, c'est le fait que lorsqu'on confronte les papiers des marchands d'Isigny avec la série Isigny, ben on s'aperçoit que le début d'une période de commerce et puis la fin d'une période, parce que c'est très saisonnier le commerce du beurre frais à Isigny, ben on s'aperçoit que ça fonctionne bien, hein, c'est vraiment bien aux mêmes dates. Donc là, il y a des aspects qui sont quand même assez rassurants. Et puis le dernier point, c'est le fait que les contrôles effectués à Paris, eh bien, ne sont pas que des dispositions de papier. Et on a plusieurs lettres de marchands de Paris qui disent « Attention, respectez bien ce qu'on nous demande. » Par exemple, de mettre en entier les noms des destinataires sur les nappes qui entourent les mottes de beurre, parce qu'on ne veut pas se retrouver entre les mains de ces gens-là, des commis de la halle ou bien de ceux qui perçoivent les droits. Donc voilà, on peut être en partie rassuré sur la fiabilité de ces sources. Hein, et ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de regarder d'un petit peu plus près le commerce du beurre en panier et des œufs pour ces trois lieux d'expédition et également d'essayer de les confronter, de voir comment ils fonctionnent ensemble. Oui, donc là, c'était une lettre de marchand de beurre d'Isigny, hein, une lettre destinée, pardon, à un marchand de beurre d'Isigny par le fruitier parisien Serre, donc au début des années 1780. Alors, les quantités et les rythmes d'expédition. Donc, ces informations que j'ai trouvées dans le contrôle des actes, je les ai saisies sur tableur Excel. Et ces informations, on peut ensuite, évidemment, procéder à des tris sur les quantités, sur les expéditeurs, les destinataires. Hein. Et en croisant les trois séries, il y a même là quatre années sur lesquelles on peut regarder, confronter donc, les trois séries pour la période 1779-1782. Alors, en ce qui concerne les quantités annuelles de beurre frais pour l'instant, les 300 expéditeurs sont d'importance différente. Alors, je parle bien de centres expéditeurs et non pas de marché. Si je prends l'exemple d'Isigny, que je connais le mieux, hein, à Isigny, on expédie du beurre frais, mais ce beurre frais, il n'a pas forcément été acheté à Isigny. Il a pu être acheté à Carentan, à RL, à Sainte-Mère-Église. Et donc, mieux vaut parler de centre expéditeur que de parler de marché. Eh bien, quand on confronte sur ces quatre années qui coïncident, ces trois centres expéditeurs, là, on voit bien qu'ils ne boxent pas dans la même catégorie. Hein. Gournay, c'est autour de 1 500 000 livres de beurre expédiés vers Paris, Paris et les environs. Isigny, c'est un tiers de Gournay, c'est 500 000 livres de beurre. Et Mortagne, c'est un dixième de Gournay, c'est 160 000 livres. Et si on regarde sur une période un petit peu plus longue, on s'aperçoit aussi que les dynamiques sont différentes ou semblent être différentes. Voilà les quantités annuelles de beurre de Gournay vers Paris et les environs vers 1757-1769. Alors 1757 n'est pas une année pleine, donc j'aurais dû même l'évacuer de ce graphique. Hein. Et on s'aperçoit pour Gournay que dès la fin des années 1750, les volumes transportés sont déjà à près d'un million de livres de beurre. Ils sont même entre 1,2 et 1,4 millions de livres pour les années 1766-1768. Prolongé par le registre du notaire, alors si on arrive à lire les chiffres, c'est bien. Il y a encore une augmentation. Entre 1769 et 1783, on arrive et on se maintient, on arrive à 1,4 million de livres de beurre. Hein. Et si on regarde maintenant pour les états hebdomadaires, là, le registre de la ferme générale pour les années 1787-1788, qui sont les deux seules années pleines de cette dernière source pour Gournay, ça se maintient aux alentours de 1 400 000 livres de beurre. Maintenant, pour Isigny, là aussi, ça semble être en augmentation, les quantités annuelles de beurre d'Isigny vers Paris, hein. Donc 1775-1790, c'est les seules années où j'ai un poids qui est exprimé en livres de beurre. Et on est aux alentours de 400 000 livres de beurre dans la deuxième moitié des années 1770. Et on passe un seuil, hein, on est à plus de 500 000 livres de beurre dans la décennie 1780. Pour Mortagne, c'est différent. Pour Mortagne, ça semble être un centre expéditeur en régression, puisque dans les années 1790-1786, hein, on passe de 180 000 à 110 000 livres de beurre. Alors, en régression, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait regarder un peu les marchés voisins. Est-ce qu'il y a des marchés voisins qui ont capté une partie de l'activité de Mortagne? Est-ce que c'est la concurrence de Gournay et d'Isigny? Est-ce qu'il y a de la fraude aussi qui ferait que ces années-là, il y a moins de contrôle et il y a davantage de chargements qui partent sans lettre de voiture? Là, je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, ça permet de poser des questions et peut-être d'aller chercher dans d'autres archives un début de réponse. Toujours est-il, après ce premier regard, que pour une consommation de beurre frais estimée par Lavoisier à 3 150 000 livres de beurre en 1789, pour Paris qui fait à peu près 900 000 habitants à l'époque, hein, on a au moins deux tiers du beurre frais qui provient de ces trois centres expéditeurs, et encore même davantage si on prend en compte les environs de Paris. Hein, donc c'est vraiment considérable. La Normandie joue là un rôle très important dans l'approvisionnement de la capitale. Alors maintenant, en cumulé, ce que ça donne, hein, on est largement à plus de 2 millions de livres de beurre à destination de Paris. Alors maintenant, en ce qui concerne les œufs. Alors il n'y a pas d'œufs à Isigny, en tout cas Isigny n'est pas un centre expéditeur d'œufs, ce qui peut être surprenant, et là aussi ça mériterait de s'interroger là-dessus. Hein. Au XVIIe siècle, dans le notariat d'Isigny en 1675, j'ai trouvé un acte qui atteste d'une collecte d'œufs. Alors pas à Isigny, plus à l'intérieur des terres, hein, dans la région du Bocage, à destination de Paris. Mais c'est la seule trace que j'ai trouvée de cela. Hein, et vu le nombre de sources que j'ai épluchées pour Isigny, je pense vraiment dire qu'il n'y a pas d'activité autour des œufs à Isigny. En revanche, pour Mortagne et pour Gournay, là, il y a une activité importante de commercialisation des œufs à destination de la capitale, et avec là aussi des différences importantes entre les deux. Pour les années 79-82, c'est pas fin 79, hein, c'est toute l'année 79, on a un rapport de Gournay fait 4 fois Mortagne. Donc il y a un rapport, un écart considérable. Gournay, c'est autour de 12 millions d'œufs, un petit peu moins, un petit peu plus. Mortagne, c'est aux alentours de 3 millions d'œufs à destination de Paris. Alors, les quantités annuelles pour Gournay, si on regarde sur la période 69-83, eh bien, on voit là aussi une augmentation importante. Hein. À partir des années 1779-1782, on a franchi le 10 millions d'œufs à destination de Paris et des environs. Ce que vous avez en rouge, hein, ce sont les environs de Paris. Et ça se voit aussi pour la dernière période sur laquelle on a un regard statistique, hein, avec là plutôt 14 millions, entre 13 et 14 millions d'œufs à destination de Paris. Pour Mortagne, eh bien, on a quand même une augmentation. Alors, c'est d'abord une situation assez stable autour de 3 millions, un affaissement vers 1784-1786, et puis une augmentation qui porte à plus de 4 millions d'œufs à destination de la capitale, les chargements donc dans les dernières années de l'Ancien Régime. Alors, oui, pour les dernières années de l'Ancien Régime. Et donc, si on fait l'effectif Gournay plus Mortagne, eh bien, là aussi, hein, on dépasse allègrement les 16 millions d'œufs. On est aux alentours de 17 millions d'œufs à destination de Paris. La consommation, selon Lavoisier, en 1789, c'est 78 millions d'œufs à Paris. Et donc, on est à 20-23% du marché parisien, seulement avec ces deux centres expéditeurs. Donc ça, c'est le premier regard, puis c'est le plus simple, hein. On fait un total par année, et puis on a déjà des informations intéressantes sur le commerce et l'importance respective de ces différents centres expéditeurs. Maintenant, on peut avoir un regard plus fin en dressant des statistiques hebdomadaires. Et on va d'abord commencer par regarder le beurre. Le beurre pour Gournay et pour Mortagne, alors pour les mêmes années, avec des échelles différentes, vous le voyez bien, hein, avec des échelles différentes, on a des mouvements qui sont en partie comparables, c'est-à-dire que le maximum des expéditions a lieu au beau jour, hein, le maximum qui a lieu au mois de juin. Et il y a plusieurs explications à cela, des explications qui sont assez simples. Bah, la première, c'est que Gournay et Mortagne sont proches de Paris, et donc transporter du beurre frais même au mois de juillet ou au mois d'août, eh bien, c'est réalisable, hein, sans grande difficulté. Alors probablement qu'on roule aussi la nuit. Il y a quelques éléments qui le laissent penser. Mortagne, Paris, c'est aux alentours de 3 jours. Gournay, c'est encore moins. Et donc, c'est quelque chose de réalisable. Deuxième élément, eh bien, c'est le fait qu'au beau jour... Alors là, je me suis servi un peu scandaleusement de courbes très récentes, hein, pour la production de lait de vaches laitières bien contemporaines, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les vaches laitières du XVIIIe siècle. Mais une fois le vêlage survenu au printemps, eh bien, on a une augmentation de la production laitière. Et puis, ben, c'est aussi la pousse de l'herbe, évidemment, qui est plus importante au printemps et en été. Et donc, tout cela explique... permet d'expliquer, de comprendre pourquoi on a cette augmentation au beau jour. En revanche, bah quand on confronte ce calendrier d'expédition avec celui d'Isigny, pour les mêmes années, hein, 1779-1782, on voit un calendrier extrêmement différent. Ce calendrier différent, bah, il peut s'expliquer tout d'abord par... Alors là, voilà, sur une période plus longue, hein, pour bien montrer que c'est régulier. Ce calendrier différent, il s'explique tout d'abord, là aussi, par la distance. Isigny-Paris, alors il y a un marchand qui s'appelle Marie vers 1780 qui réussit en express à voiturer des chargements de beurre en 4 jours, voire 3 jours à certains moments de l'année. Et là, c'est vraiment un temps record, puisque des petits calculs qu'on peut faire à partir des dates de départ, des dates d'arrivée, ou bien des informations qu'on peut glaner dans la correspondance au contrôle des actes, ça laisse plutôt penser à 6 jours ou à 9 jours, ce qui est considérable pour les personnes et pour les lettres, c'est plutôt 3 jours, hein, mais là, les chargements, ils mettent du temps à arriver à Paris. Et donc, ben, ce temps, évidemment, exposé aux températures, exposé au soleil, ça fait que le beurre frais qui arriverait sur le carreau de la halle à Paris ne serait pas en bon état et l'opération ne serait vraiment pas très intéressante d'un point de vue économique. Mais ça serait trop simple de réduire cela à des questions de distance. Il y a également d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Deuxième élément logique, c'est le fait que bah, Gournay et Mortagne fournissent au beau jour. Et donc bah, Isigny a encore plus de mal à exister avec ces deux pôles proches de Paris qui voient leur production de beurre beaucoup plus importante à partir donc, de la fin du printemps. Et puis il faut également ajouter à cela la question, et je regarde si ça se voit à peu près, la question du calendrier religieux. Alors, ce calendrier religieux, parce qu'au Moyen-Âge, dans de nombreux diocèses du nord de la France, le beurre, qui est une graisse animale, est interdite en carême et dans d'autres jours maigres. C'est le cas aussi des œufs, c'est le cas du fromage, c'est le cas du lait. Et pour ce qui concerne le beurre, à partir de la fin du XVe siècle, on assiste à un desserrement progressif des restrictions concernant le beurre, des dispenses collectives qui vont être attribuées. À Paris, je n'ai pas trouvé de date, mais c'est probablement la première moitié du XVIe siècle. Et il se trouve qu'à partir du moment où le beurre est autorisé, eh bien, ce qui était jusque-là banni va devenir privilégié. C'est-à-dire que le beurre va devenir une graisse animale de substitution au lard, au saindoux, qu'on ne peut toujours pas, évidemment... On voit ça avec sa conscience, hein, mais qu'on ne peut toujours pas consommer durant le carême. Et puis, dans cette consommation des temps maigres, c'est aussi le fait que, à l'époque, pour cuisiner de la morue, pour cuisiner des légumes, qui sont des aliments qui sont importants en période de maigre, on utilise du beurre. Et donc là aussi, hein, on va avoir un surcroît de consommation qui s'explique par cette conjonction de facteurs religieux. Et ça se voit clairement. Alors voilà la situation en 1756-1764, avec une vraie saisonnalité. Hein. Les intervalles, c'est entre mai et octobre-novembre, les intervalles où il n'y a pas d'expédition. Hein. Et puis ensuite, des expéditions qui ont des formes assez régulières et assez particulières. Alors j'ai essayé plusieurs choses. J'ai d'abord essayé Noël. Et Noël, c'est en partie concluant. En tout cas, on voit une sorte de petit ergot juste avant le repère Noël. Ce petit ergot, alors, il peut s'expliquer de manière extrêmement contradictoire. Il peut s'expliquer par les samedis maigres. Dans une partie du XVIIIe siècle, il y a un certain nombre de samedis de la période de l'Avent qui sont maigres et dans lesquels il peut y avoir un surcroît de consommation de beurre. Mais il peut aussi s'expliquer à l'approche de Noël par des préparations grasses où on utilise beaucoup de beurre. En tout cas, bon, il y a une augmentation à l'approche de Noël. Plus parlant, c'est ce qui est lié à Pâques. Donc, je vais faire apparaître pour ces différentes années. En 1, vous allez avoir le mercredi des cendres. En 2, vous allez avoir Pâques. Et en 3, vous allez avoir, 40 jours après Pâques, l'Ascension. Et là, on voit vraiment des correspondances assez fortes hein, entre ces trois dates et puis le calendrier des expéditions. Alors, en carême, oui, on consomme beaucoup de beurre. D'ailleurs, on en offre même en début de carême ou à l'approche du carême dans des petits pots, soit à des amis, soit à des personnes dont on veut se faire bien voir pour se faire recommander ou pour avoir quelques faveurs. Les prix, d'ailleurs, augmentent fortement durant le carême. Et donc, c'est plus prudent d'acheter avant le carême, hein, avant d'être en pleine période d'augmentation des prix, un peu comme je sais pas, la coquille Saint-Jacques à l'approche de Noël à l'heure actuelle. Hein. Et puis, ensuite, ça retombe après Pâques. Et ça augmente à nouveau après cette période. Alors, ça se voit peut-être pas très bien. Mais avant les traits rouges numéro 3, hein, on voit une augmentation. Et cette augmentation, elle est due aux rogations. Ce sont les trois jours maigres qui précèdent l'Ascension. Et pour lesquels, là aussi, hein, on voit bien dans les lettres des marchands de beurre qu'il est temps de fournir. Et que si ça arrive après les rogations, c'est même pas la peine d'envoyer le beurre. Parce que ça restera, on n'aura pas de quoi le vendre. Alors, ce schéma est mis à mal vers la fin de l'Ancien Régime. Voilà. Alors là, c'était exprimé en nombre de paniers. Et là, on va passer un graphique et exprimer en quantité de beurre. Et là, on ne retrouve plus le carême. On le retrouve assez mal. Et par contre, on le voit mieux, là, les expéditions. Les couleurs ont changé, mais c'est la même chose. Hein. Très rouge, c'est Noël. Les traits verts, c'est mercredi des cendres, Pâques et l'Ascension. Et là, c'est méconnaissable. Et une des explications, eh bien, elle est fournie par les lettres de marchands de beurre. Des marchands de beurre, des fruitiers parisiens disent « Le bruit court que le carême sera gras ». Tout le monde fait gras à Paris, hein, Et donc, ce beurre qui est un beurre de substitution dans les temps maigres, eh bien, n'est plus autant consommé pour ces raisons religieuses. Dernier point concernant le beurre, c'est qu'on va pouvoir croiser les trois séries. Là, j'ai beaucoup insisté sur Isigny, hein, mais on peut croiser les trois séries concernant donc Gournay, Mortagne et Isigny. Et quand on croise les trois séries, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une certaine régularité des approvisionnements et puis une interaction entre ces différents centres. Alors Gournay et Mortagne, ben, on l'a vu, c'est au beau jour que les maximums surviennent. Et donc, ce sont des rythmes un peu comparables, évidemment, avec des intensités, des écarts bien différents. Et puis, on voit qu'Isigny, on a l'impression qu'Isigny met vraiment ses pas dans les creux de Gournay, beaucoup plus que dans ceux de Mortagne, hein, et en profitant de la baisse de la production laitière dans le pays de Bray. Et cela est intéressant aussi quand on cumule les expéditions, et on a un approvisionnement de Paris qui est assez régulier, alors qui est marqué par des irrégularités quand même, hein, mais des volumes qui sont quand même assez conséquents et qui peuvent aussi peut-être jouer sur la consommation des Parisiens, consommation qui n'est pas constante sur l'année, hein, mais là c'est beaucoup plus difficile de savoir précisément ce qu'il en est. Alors, ça c'est donc pour le beurre. Maintenant, voyons ce qu'il en est pour les œufs. Alors, Gournay comme Mortagne, eh bien, on a l'impression que c'est à peu près les mêmes rythmes. Il n'y a pas longtemps que je travaille dessus et je n'aurai pas réponse à toutes les oscillations. Hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a d'abord une forte augmentation, une chute des expéditions, et puis ensuite une période où on a un déclin beaucoup plus progressif. Et ça, ça se répercute hein, d'année en année. Ces observations, on peut les faire aussi sur un temps plus long, et avec une augmentation des écarts hein, qui deviennent de plus en plus forts. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a vu que c'était des marchés qui étaient en expansion pour les œufs, hein, aussi bien Mortagne que Gournay. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ces oscillations, ces observations? Il y a d'abord des variables qui sont liées à la production. Mais j'avoue que là, déjà la littérature est beaucoup moins importante que sur les vaches laitières. Et il faut raisonner là sur des volailles, sur des poules du XVIIIe siècle, et qui ne sont pas les poules qui ont connu une sélection au XIXe siècle. Et donc c'est beaucoup plus difficile, d'estimer la durée de ponte, de savoir durant quel mois de l'année plus particulièrement ces poules pondent. Alors oui, on lit ça et là qu'elles ne pondent pas en hiver. Bon. Là, on voit quand même que dans les mois d'hiver, il y a des envois. Alors, ça peut être du stockage, mais là, ça serait intéressant d'aller dans les fermes par le biais des inventaires à prédécès, puis de regarder si on estime des stocks d'œufs et en quelle quantité, hein, ou chez les marchands. Peut-être que les marchands font des stocks d'œufs pour écouler au moment où les prix sont les plus importants. Il y a la question de la concurrence, et alors là, la concurrence, elle est importante, et elle est beaucoup plus large que pour le beurre. Il arrive des œufs de Picardie, d'Artois, de Flandre, de la Brie, du Valois, de Champagne, de Gâtinais, de Saint-Germain-en-Laye, et donc c'est aussi sans doute ces calendriers-là qui influent sur le rythme des expéditions de Gournay et de Mortagne. C'est le calendrier des autres denrées, je parlais tout à l'heure du poisson ou des légumes pour la consommation de beurre. Là aussi, il faudrait confronter le calendrier d'expédition des œufs avec les traditions culinaires, avec le calendrier des autres produits. Et puis là aussi, le calendrier religieux a toute sa pertinence. À Paris, jusqu'aux deux premières décennies du XVIIIe siècle, les œufs ne sont pas autorisés, donc on a un maintien beaucoup plus tardif des interdits en temps maigre, et notamment en carême. Mais ensuite, on a là aussi un desserrement progressif. Et on va assister à un surcroît de consommation en maigre, en produits de substitution peut-être aussi les premières années, parce que enfin on peut consommer l'esprit dégagé, ce qui était jusque-là interdit, hein, et donc on peut voir ces carèmes qui sont marqués, et très marqués, et ce jusque en 1789-1790, pour Gournay d'abord. Alors, ah oui, ça se voit bien là. Donc, toujours avec mercredi des cendres, Pâques et puis l'Ascension. Et parfois, c'est sur l'Ascension que c'est plus prononcé encore que sur Pâques, enfin que sur le carême. Donc voilà, pour forcer un petit peu le trait. Pour Mortagne, là aussi, hein, on a un lien qui est important. Et puis, il y a d'autres temps forts de l'année sur lesquels je ne me suis pas pour l'instant penché, hein, mais on voit qu'il y a d'autres pics, hein, et qui reviennent assez régulièrement tout au long de l'année. Alors après les quantités, on peut également s'intéresser aux acteurs du commerce du beurre. Hein, c'est une autre utilisation possible. Ces acteurs du commerce pour lesquels on peut envisager d'abord les expéditeurs. Et ces expéditeurs, alors pour lesquels la source présente des difficultés. C'est-à-dire que c'est une source sur lesquelles ne sont pas systématiquement notés les prénoms, sur lesquels des fois on a des indications père, fils, veuve, etc. Hein, mais pas de quoi bien individualiser à chaque envoi chacun des expéditeurs. Et le problème se posera aussi pour les destinataires. Alors bah, j'ai fait le choix de relever les patronymes. Alors ça pose des problèmes. Les homonymies peuvent être importantes, peuvent être nombreuses. Il peut y avoir plusieurs générations qui sont incluses dans un même patronyme. Et puis un patronyme peut disparaître non pas parce que le marchand arrête son activité, mais parce que si c'est une femme, par exemple, elle a pu se marier. Et donc là, y a quelques biais, évidemment, méthodologiques. Si je me limite au beurre, pour les expéditeurs, à Isigny, on a surtout des marchands commissionnaires. Ils prennent une commission de 2% sur la transaction. Ils facturent aussi les frais entraînés par le conditionnement de la marchandise. Et au XVIIIe siècle, ben, les marchands de Paris leur écrivent. Et le marchand exécute avec parfois une certaine marge de manœuvre. Hein, ce qui donne aussi ben, des fonds intéressants, des fonds d'archives intéressants. Mais on a aussi des voituriers, des croquetiers, donc des petits marchands qui travaillent pour les marchands en gros. Et puis aussi des producteurs. Alors là, j'ai été assez surpris de m'apercevoir que ce sont parfois des producteurs qui se lancent là aussi dans la commercialisation directement de leur production. Et sans doute assez peu de marchands forains, c'est-à-dire des marchands qui font le trajet eux-mêmes. Hein. Là, le trajet est assuré par des voituriers. Pour Gournay, eh bien, Gournay, alors c'est un peu compliqué. Gournay, il est représenté à moins de 20 lieues de la capitale. Et c'est vrai, il est à moins de 20 lieues de Paris. Il n'empêche qu'il est considéré comme étant... Les fruitiers ont fait pression pour le faire considérer comme étant au-delà des 20 lieues de la capitale, ce qui les arrangeait dans leur approvisionnement. Et donc les fruitiers parisiens se déplacent directement à Gournay pour faire leurs achats. On a aussi un certain nombre de marchands forains et quelques marchands commissionnaires également qui assurent ce commerce. Pour Mortagne, eh bien, pour l'instant, voilà, j'ai saisi les données, j'ai identifié quelques marchands. Certains d'ailleurs qui sont alliés à des familles parisiennes, mais je n'en sais guère plus. Il y a des commissionnaires, c'est sûr. Des marchands forains aussi, indubitablement. Hein. On trouve des marchands forains, alors là, pour le beurre ou pour les œufs, de L'Aigle, de Mamers, de Bellem, d'Alençon, du Merlerot. Mais voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on peut constater une forte concentration du commerce en un petit nombre d'expéditeurs. Pour Isigny, par exemple, la période 1775-1790, eh bien, on a 58 patronymes. Eh bien, sur ces 58 patronymes, il y en a 12 qui cumulent 95% des quantités expédiées. Et donc, ce qui est considérable, hein, les autres, ben, voilà, ce sont des petits marchands, des paysans qui font quelques opérations de temps en temps. Pour Gournay, entre 1757 et 1769, il y a 10 patronymes qui concentrent 65% de la quantité expédiée. Il y en a 4 d'entre eux, hein, sur ces, cette grosse décennie, qui expédient plus d'un million de livres de beurre à destination de la capitale. Donc c'est vraiment des gros marchands. Hein. Ben, ou là, des gros fruitiers parisiens, en l'occurrence. Pour Mortagne, alors j'ai fait des petits calculs récemment, il y a 3 patronymes qui cumulent 62% du beurre expédié entre 1778 et 1791, et un seul d'entre eux, représente déjà un tiers du commerce du beurre. Donc, là aussi, hein, il est tenu entre eux assez peu de mains. Maintenant, en ce qui concerne les destinataires, toujours pour le beurre, on a là une difficulté supplémentaire qui est due au fait que lorsqu'un chargement arrive à Paris, eh bien, un tiers doit être extrait de ce chargement pour être mis aux enchères. Ça évite justement la concentration entre un petit nombre de fruitiers parisiens de grande envergure, concentration de la marchandise. Et donc, évidemment, ça perturbe la lecture des destinataires, des marchands destinataires de ces chargements. Pour Isigny, on a là 135 patronymes de destinataires entre 1775 et 1790. Eh bien, 19 d'entre eux, ça représente 70% des quantités expédiées. Là aussi, hein, le commerce est très concentré. On ne sait pas qui sont exactement les consommateurs, là ce sont des marchands qui ensuite revendent, mais on a quand même deux mentions pour une vingtaine ou une quarantaine d'envois, des Invalides et puis de l'école militaire de Paris. Pour Gournay, du point de vue des destinations, Alors voilà, ça c'était pour Isigny, hein, avec des destinataires qui parfois reçoivent plus d'un million de livres de beurre en l'espace de 15 ans. Pour Gournay, eh bien, il faut déjà dire que les environs de Paris sont une masse importante des expéditions, jusqu'à 20% en fin de période, hein, et avec des localités comme Saint-Denis, Argenteuil, Pontoise, Versailles, qui sont des quantités vraiment, qui reçoivent des quantités importantes. À savoir si là aussi, ensuite, il n'y a pas une sorte de redistribution sur des localités voisines. Donc là, ce sont essentiellement des fruitiers parisiens. Et ce qui est intéressant, c'est de... Alors, je m'y suis essayé pour quelques fruitiers. Hein, c'est de regarder leur profil de leurs commandes. Là, on a des profils qui ressemblent fortement au profil d'expédition de Gournay. Et donc, quand il y a beaucoup de Gournay, ils achètent beaucoup de Gournay. Quand il y a peu de Gournay, ils achètent peu de Gournay. Donc, il y a une vraie régularité. Mais il y a d'autres marchands pour lesquels ils achètent un peu du Gournay toute l'année, sans qu'il y ait trop de variations. Et puis on a des marchands qui achètent du Gournay qu'à certains moments de l'année. Et Balin, eh bien c'est un marchand que moi je retrouve aussi à Isigny. Et donc en croisant la série Isigny et la série Gournay, alors il y a un risque, ça peut être un homonyme, hein, mais visiblement c'est le même Balin, puisque là ce sont des points, mais les points sont tellement serrés que finalement ça fait des sortes de gros traits rouges, hein, et on s'aperçoit que Balin, quand il n'achète pas du Gournay, il achète du Isigny. Et donc, je ne me suis pas essayé encore pour Mortagne, mais peut-être qu'on va pouvoir encore préciser davantage le calendrier d'approvisionnement de chacun des marchands. Et puis alors là, on a des choses assez baroques. Alors non, là c'est encore un marchand qui achète et du Gournay et du Isigny, là aussi. Voilà, ça c'est en dehors de Paris. Alors là, avec des logiques ou des rythmes d'achat là, que pour l'instant je n'arrive pas à expliquer. Et puis, là aussi, des clientèles. Alors, on a des informations sur d'autres clientèles. Le plus prestigieux, c'est quand même en 1750, hein, où j'ai trouvé une lettre de voiture pour le roi, la reine et Madame de Pompadour. Bon, on imagine le plaisir du scripteur de marquer tous ces détails. La cour ou Versailles sont évoquées par des envois aux chevaux légers du roi à Versailles, des envois au prince de Conti. Les Invalides également s'approvisionnent en beurre de Gournay, d'autant plus qu'ils sont exempts des droits à payer sur le marché de Gournay. Et puis on a des institutions religieuses et quelques ecclésiastiques, l'abbaye de Saint-Denis, les carmélites de Saint-Denis, l'archevêque de Paris. Pour Mortagne, dans les premiers dépouillements que j'ai faits, donc il y a des fruitiers qui sont destinataires, il y a des facteurs à la halle qui prennent une certaine importance, et puis quelques références à des institutions, l'Hôtel Dieu de Paris, les Enfants Trouvés, les Incurables. Et là aussi, les destinataires sont assez peu nombreux, les destinataires les plus importants. Il y a 4 patronymes de destinataires à Mortagne qui cumulent 50% du beurre qui a été envoyé et 45% des œufs qui ont été envoyés dans la période 1778-1791. Donc pour finir sur cette communication, je voulais évoquer quelques aspects concernant les aires de production. Parce qu'on voit les volumes qui sont conséquents. On voit également le fait qu'il y a des calendriers commerciaux qui sont assez serrés, hein, et je n'ai pas présenté les prix, mais là aussi on voit que les prix, et puis les marchands, mais aussi les paysans sur les marchés, ils en ont conscience des prix. Eh bien, tout ceci a des conséquences à la fois pour l'agriculture et plus généralement pour les populations rurales. Alors pour l'agriculture, rapidement, si j'évoque le cas du beurre, c'est les sous-produits laitiers. C'est-à-dire qu'à cette époque, pour faire du beurre, alors le beurre se fait à la ferme, il n'y a pas de laiterie industrielle, évidemment, on laisse décanter la crème par rapport au lait, et donc vous avez du petit lait, mais qui est beaucoup plus gras qu'à partir du 19e siècle, quand vous avez une écrémeuse. Et donc ce petit lait, il sert à la nourriture, notamment des porcs. Vous avez aussi tout le barattage, et les sous-produits barattage, dont le babeur, qui peut servir pour les porcs, et des porcs de Gournay, par exemple, sont commercialisés à Paris. Ça peut servir à l'alimentation des veaux, évidemment, ou à l'alimentation de la volaille dans le pays de Bray. Cet élevage laitier, il génère d'autres productions animales, ne serait-ce que les vaches de réforme, une fois qu'elles ont fini leur période de vache laitière, ou si jamais elles ne font pas l'affaire, on trouve des vaches de graisse, c'est-à-dire des vaches pour la viande, des vaches de graisse qui ont 2 ans ou qui ont 3 ans, parce que voilà, on s'aperçoit que ce n'est pas des bonnes laitières, et puis on les envoie pour la viande. Tout ça, ça implique aussi des changements techniques importants, des changements techniques dans la manière de fabriquer le beurre. On a une description, alors pour quel pourcentage des fermes, ça je n'en sais rien, mais dans lesquelles on insiste sur la propreté des intervenants, dans les fermes du pays de Bray, des fermières ou des filatraires, comme on les appelle, changent de chaussures quand elles rentrent dans la laiterie. On nettoie avec des orties, avec de l'eau chaude, le matériel. Il y a une sélection animale, vraisemblablement, puisque les vaches du Bessin eh bien, sont beaucoup plus productives sous le Premier Empire. C'est les plus productives du Calvados. Et donc, là aussi, hein, sans doute ce que je disais tout à l'heure sur les vaches de réforme, y compris pour des jeunes vaches qui ne faisaient pas l'affaire comme vaches laitières, ben, au bout d'un siècle ou d'un siècle et demi, ça a une influence sur la production. Et puis, peut-être aussi une sélection sur les poules, mais on en est quand même encore loin de nos poules pondeuses à l'heure actuelle. Congrès de l'Association normande en 1856 à Gournay, il est dit qu'avec 100 poules du pays de Bray, en un an, on a 4000 œufs. Donc ça fait 40 œufs par poule par an. Donc c'est vraiment très, très modeste. Hein. Et puis, des stratégies pour décaler le cycle de lactation des vaches, faire en sorte qu'il y ait plus de lait en hiver. À Isigny, on voit ça. On voit ça aussi dans la région de Torigny. Et il est possible aussi que, pour la ponte, eh bien là, il y a un intérêt à décaler pour correspondre davantage à la période du carême. C'est attesté pour le pays d'Auge, mais probablement que la région de Mortagne, ou pourquoi pas le pays de Bray, on se trouve dans les mêmes situations. La question du stockage aussi des œufs, que j'ai évoqué tout à l'heure, tout ça, eh bien, ça implique un perfectionnement technique et une vraie maîtrise de l'élevage. Et puis, c'est aussi pour les populations en général, les populations rurales, pardon, plus généralement, eh bien, c'est la question de la ration alimentaire. Jaure, qui est secrétaire de la Société d'agriculture de Rouen en 1763, rapporte que dans le pays de Bray, le babeur sert à l'alimentation des pauvres, ou qu'on en fait de la soupe pour les valets et les servantes de la ferme. Le lait écrémé, on le fait cailler pour avoir des fromages. Alors, c'est pas des fromages de grande qualité, mais ça peut nourrir, en tout cas, des catégories très populaires. Les veaux, eh bien, les veaux qui permettent de renouveler et d'augmenter la production laitière tous les ans, dans le Cotentin et dans le Bessin, mais comme en Bretagne, on s'en débarrasse, parce que ce sont des bouches à nourrir, et donc on les vend ou on les tue, et donc toute cette viande, bah, elle est bien consommée, que ce soit dans la ferme ou que ce soit sur les marchés locaux. Et puis, bah, les œufs, c'est la même chose. Les œufs cassés, les œufs fêlés, les œufs abîmés dans la ferme. Quand vous avez un marché de Gournay avec 14 millions d'œufs par an, c'est clair que la population locale doit aussi consommer une partie des œufs. La volaille aussi, hein, si une poule pond 40 œufs par an, il en faut des poules pour avoir 14 millions d'œufs en une année. Et là aussi, hein, ça laisse à penser une basse-cour importante ou alors des aires de collecte qui sont extrêmement vastes. Et puis, c'est toute la question des surplus, des invendus, des périodes où les prix de vente sont très bas, des conjonctures économiques, où là, eh bien, il peut être intéressant de consommer ce qu'on avait destiné au marché. Et donc, peut-être que dans la ration alimentaire de ces régions qui pourvoient Paris, on aurait des bonnes surprises ou des éléments intéressants. Là aussi, les périodes de crise de subsistance, hein, peut-être qu'on a des populations qui sont beaucoup plus résilientes que dans d'autres espaces. Voilà, je pense que je suis arrivé à peu près aux 50 minutes. Donc pour conclure, ben, je vais revenir sur la source. C'est une source qui finalement donne beaucoup d'informations. Et puis c'est une source aussi qui aide à questionner les autres sources. Hein. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on a plusieurs séries à confronter. Là j'en ai trois. J'envisage, une fois que j'aurai bien travaillé sur la série de Mortagne, eh bien, d'essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Hein. Mais c'est vrai que si on en a quatre ou cinq, eh bien, on pourra là avoir une vision intéressante des relations ville-campagne, surtout si on parvient à les croiser avec des inventaires après décès, avec des correspondances ou des papiers de marchands. Voilà, j'en ai fini.